Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous entrons dans le grand carême. Je dis le grand carême parce que, encore dans les monastères, quelques abbayes, on parle du grand carême puisque l'Avent est aussi un carême, un petit carême. Ce grand carême a ceci de particulier que c'est une invitation au combat. Une invitation au combat spirituel, une invitation forte à laquelle nous ne pouvons nous dérober. Alors je vous propose de voir tout d'abord en quoi ce temps est un temps pour combattre et ensuite de voir les moyens du combat. D'abord un temps pour combattre, 40 jours, c'est pas très innocent, c'est même fait très à propos. Ces 40 jours nous rappellent évidemment avec force les 40 ans d'exil du peuple juif dans le désert qui a combattu pour essayer de survivre et de trouver Dieu. C'est aussi les 40 jours à l'Horeb, c'est aussi les 40 jours du Seigneur dans le désert qui part au désert pour être tenté. Il ne s'agit donc pas en aucune manière de nous retirer, de nous faire petits ou de nous mettre à l'écart. Il s'agit de partir au combat. Et de partir au combat durant 40 jours. 40, c'est un chiffre dans la Bible parfaitement humain. C'est le chiffre du renouvellement d'une génération. Ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas ceux qui sont entrés en terre promise. C'était leurs enfants, 40 ans plus tard. Voici dans quoi nous sommes amenés à entrer, dans un vrai renouvellement. Il nous faut croire que nous pouvons, spirituellement, nous rendre nouveaux, participer de la nouveauté du Christ à laquelle nous sommes appelés. Alors ce combat, comment va-t-on faire? Il nous faut d'abord, avant tout, tenir le but. Le but, il est ici clairement exprimé dans l'Évangile, quand le Seigneur nous rappelle que si vous faites des choses pour être vu des hommes, eh bien c'est ça votre but. Votre but, c'est d'être honoré des hommes, vu des hommes, récompensé des hommes, estimé des hommes, et alors vous obtiendrez votre quête, vous obtiendrez l'estime des hommes. Mais le combat de Dieu n'est pas de cet ordre. Le combat de Dieu est un combat pour arriver à Dieu, pour parvenir au Seigneur. Et alors évidemment, tout s'éclaire, parce que si vous avez entendu cet évangile en disant « il faudrait surtout que, il faut être très secret, il ne faut pas que ça se voit, il ne faut pas que ça se sache, il ne faut pas que ça s'entende », eh bien vous allez vous fourvoyer, vous ne savez pas ce que vous allez faire, parce que l'évangéliste nous a dit « il ne faut pas se tenir debout dans les synagogues quand on prie ». Quand j'ai lu ça il y a un instant, j'étais debout et vous aussi, et nous étions en train de prier. Alors, est-ce qu'on s'est fourvoyé? Non. Simplement, considérez bien ce que l'évangéliste répète 5 fois, si vous faites ça pour être vu des hommes. Il s'agit donc bien d'ordonner et de savoir pourquoi nous voulons entrer dans ce carême. Nous ne voulons pas y entrer pour qu'on dise qu'on est des chrétiens géniaux, des gens très magnifiques, admirables, etc. On s'en fiche complètement. Nous le voulons pour Dieu. Et ce n'est pas facile de se détacher de nous-mêmes, du regard des autres et même de ma propre considération pour ne considérer plus que Dieu dans mon combat. Alors, ce combat, je vous propose d'y entrer avec les armes nécessaires au combat. Le glaive, le bouclier et l'armure. L'armure, elle est toute trouvée, c'est l'armure de la charité, c'est le partage. Le bouclier, c'est celui de la prière qui vous met sous les auspices du Seigneur. Et le glaive, c'est celui de la pénitence, du jeûne, de la mortification, appelez ça comme vous voulez. Bref, c'est ce qui va aller vous faire chercher dans votre vie quelque chose à changer. Alors voilà, nous sommes prêts, nous sommes décidés à entrer dans le combat de Dieu. Je dis une dernière chose sur ce premier point. Le temps du carême n'est pas un temps où on va essayer d'être meilleur. Parce que parfois on croit ça. Mais j'allais dire c'est une erreur, mais c'est bien. Si vous êtes meilleur pendant le carême, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'est le programme de la vie chrétienne de tous les jours. C'est-à-dire, rejeter le mal et faire le bien, c'est ce qui nous est proposé toute l'année. Parce que si nous nous contentions d'essayer de nous améliorer seulement pendant les 40 jours du carême, nous serions de fieffés hypocrites dont parle l'Évangile, c'est-à-dire qu'en échange de quelques petits efforts de 40 jours, le reste de l'année, ben, on se laisserait aller et on ferait n'importe quoi. Ce n'est pas le sens du carême, évidemment. Se convertir, c'est-à-dire se détourner des choses pour se tourner vers Dieu, c'est évidemment l'opération de toute une vie d'ailleurs, et en tout cas de toute l'année. Ce qui est différent pendant le carême, c'est que c'est un temps où il nous est donné des moyens particuliers à mettre en œuvre, les uns avec les autres, pour nous entraîner à ce combat. C'est la période d'entraînement. Si on compare avec l'athlétisme, j'ai comparé avec la guerre, mais si on compare avec les jeux d'athlètes, comme le fait saint Paul, eh bien le temps du carême, c'est le temps de l'entraînement, et le reste du temps sera la victoire. Voyons donc, dans un deuxième temps, les moyens du combat. Je vous l'ai dit, les trois P, je préfère dire pénitence, comme ça, ça permet d'avoir trois P, pénitence, partage, prière. Je vais vous donner surtout un petit éclairage, d'abord sur la pénitence, parce que c'est celui qui est parfois le plus obscur. Mais ces trois points sont à mettre en relation les uns avec les autres. C'est, à mon avis, une des clés, un des secrets du carême. Arriver à joindre la pénitence, la prière et l'offrande, le partage. D'abord, la pénitence. La pénitence, disons-le tout de suite, il ne s'agit pas, là non plus, d'arrêter un mal. Il ne s'agit pas de s'empêcher des excès. C'est pas ça. Si vous faites pénitence, si vous faites jeûne pour pouvoir perdre les kilos en trop que vous avez pris ces derniers temps, eh bien, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas mon rôle que de vous y encourager. Ce n'est pas le but du carême. Le but du carême est de nous priver de quelque chose de bon et de légitime, c'est-à-dire auquel nous aurions pu prétendre légitimement dans la vie normale. Alors pourquoi s'en séparer ? Pourquoi se séparer de quelque chose, que ça soit à table, ou dans nos relations, ou dans nos curiosités intellectuelles, que sais-je, dans tout domaine que ce soit ? Pourquoi nous séparer de quelque chose de bon ? Sommes-nous raisonnables ? Nous avons deux raisons. La première, qui est un peu commune à toutes les religions, en fait, qui pratiquent la pénitence, toutes les religions pratiquent la pénitence, la mortification, la séparation d'avec le monde, bref, c'est d'abord pour nous rendre plus forts sur nous-mêmes. C'est pour arriver à décider moi-même. C'est-à-dire que ça ne soit pas mon corps, mes envies, mes idées qui passent, qui décident, mais ma tête, ma raison, ma liberté engagée dans un choix raisonnable. Effectivement, voir passer une tablette de chocolat, chacun ses faiblesses, la mienne est certaine, eh bien, voir passer une tablette de chocolat et manger quelques carrés de chocolat, il n'y a pas de péché, hein ? C'est quelque chose de bon. C'est même bon pour la santé, paraît-il. Si je refuse ce chocolat pendant le carême, si je me dis non, ce carré de chocolat, je ne le mangerai pas, ce n'est pas pour changer quelque chose à mon alimentation. C'est pour me dire, c'est moi qui décide. Et ça va me donner le critère de ma liberté. Si vous pouvez renoncer à quelque chose, c'est que vous savez le posséder avec justice. Ce que vous ne pouvez pas lâcher, c'est ce à quoi vous êtes trop attaché. Ce que vous pouvez abandonner, c'est ce que vous possédez justement. Il ne vous est pas demandé de ne rien posséder, ce n'est pas notre condition dans le monde. Il vous est demandé d'être libre et de vivre détaché des biens de ce monde. Ce n'est pas la même chose. Alors justement, le carême va avoir comme premier avantage de nous dire, voilà, je peux ou ne peux pas posséder justement telle chose, puisque je sais que je peux m'en passer. Bien sûr, il y a plus encore dans cette renonciation. On disait ça au XVIIe siècle, de quelqu'un de très saint, que c'était un homme ou une femme renoncée, c'est-à-dire qui était capable de renoncer aux choses. Eh bien, cette renonciation, elle va nous amener à nous approcher de Dieu. Car quand on fait un peu de place et quand on enlève quelque chose matériel, on se laisse la possibilité de donner un peu de place à Dieu. Avant de revenir à la chose spirituelle, dernier détail pratique pour la pénitence, je vous conseille qu'elle soit personnelle, discrète, modeste et non dangereuse. Je m'explique. Personnelle, c'est d'abord vous qui faites pénitence. Si vous aviez décidé, par exemple, dans votre famille, de prendre une douche froide, eh bien, il n'est pas besoin pour cela de couper le chauffe-eau de la maison. Chacun se trouvera sa pénitence soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager en famille. On peut décider en famille un petit effort, et je vous conseille, avec vos enfants, vos petits-enfants, quand ils sont là, eh bien, de choisir un effort commun, mais de ne pas l'imposer aux autres. D'abord, ensuite, après être personnel, je vous conseille que la pénitence soit modeste. C'est peut-être le point le plus important. Pourquoi ? Parce que si vous faites une pénitence incroyable, cela va d'abord vous faire croire que vous êtes un héros, et donc cela va augmenter votre orgueil. Alors donc, il nous faut faire quelque chose de modeste, d'abord qu'on puisse réaliser, et ensuite qu'il ne soit rien dont on puisse s'enorgueillir dans les journaux en disant « moi, je suis capable de ça ». Vous le savez bien, les pénitences trop extraordinaires font grossir votre orgueil, vous obligent à pavaner, et finalement vous incitent à décompenser, comme on dit en psychologie, c'est-à-dire à vous payer ensuite de l'effort que vous avez fait. Modeste, personnel, discret, on l'a déjà dit, ce n'est pas pour que ça se sache, et inoffensif. Il n'est pas bon de se mortifier avec des choses qui mettraient à mal votre corps. Je vous le rappelle, la conférence des évêques de France vient de le rappeler, donc je m'en fais l'écho. Il est demandé en France, jeûne et abstinence le mercredi des cendres et le vendredi de carême, c'est-à-dire se priver de quelque chose, à table ou ailleurs, et puis jeûner, c'est-à-dire ne pas manger au maximum. Mais évidemment, si vous avez moins de 6 ans, si vous avez moins de 18 ans, pardon, si vous avez moins de 18 ans ou plus de 60 ans, eh bien, vous n'êtes pas obligatoirement tenu à ce jeûne. Et puis, si vous travaillez et qu'il est nécessaire de prendre un petit quelque chose, ben faites-le. Le but n'est pas que vous tombiez d'inanition. Alors, ça arrive surtout aux jeunes, ça, hein, qui sont pleins d'ardeur. Et ils ont raison. J'ai vu un étudiant avant-hier qui m'a déroulé son plan de pénitence. Ça m'a déjà fatigué. Hein. Et il avait prévu de ne pas manger le matin, pas manger le midi, pas manger le soir, de faire un effort les autres jours. Bon, je lui ai dit, c'est très bien, mais... As-tu prévu de continuer à aller à l'école ? Parce que, avec ce régime-là, tu vas être obligé de rester couché. Donc, il ne faut pas prendre quelque chose qui vous soit nocif, évidemment. Il faut prendre quelque chose de réalisable. Ça, c'est la pénitence. Pour le partage et la prière, c'est plus simple. Il y a moins de débordements, en quelque sorte. Il vous faut essayer de le mettre en relation avec ce dont vous vous serez privé. Vous vous serez privé, et je vous conseille de prendre peut-être deux pénitences. Une petite à table et une petite ailleurs. C'est Jean-Paul II, autant qu'il m'en souvienne, qui avait lancé la mode, c'était il y a longtemps, dans les années 90, de dire qu'on pouvait se priver à table, bien sûr, mais on pouvait peut-être aussi se priver de télévision. Alors aujourd'hui, vous pouvez transposer, n'est-ce pas ? 30 ans plus tard, on peut se priver d'Internet, on peut se priver de Facebook, on peut se priver d'Instagram, on peut se priver de je ne sais pas quoi, enfin, bref. On peut ralentir un petit peu notre consommation, notre surconsommation, pour gagner un peu de temps. Et le temps que vous aurez gagné, vous pouvez le partager. On peut partager de l'argent, on peut partager du temps. Si vous avez économisé sur votre repas, pensez à mettre ça de côté pour faire une offrande. Si vous avez économisé du temps, pensez à qui vous pourriez l'offrir. Il ne suffit pas d'économiser une demi-heure d'Internet. À qui allez-vous le donner ? À Dieu ? Sûrement, dans la prière. À vos proches, peut-être ? Parlez-leur, allez les visiter, écoutez-les, prenez ce temps. Enfin, que votre prière soit liée à cette offrande et que vous puissiez spirituellement aussi la donner au Seigneur. En fait, ce que nous voulons être, c'est ce que saint Paul nous a invités à être, des coopérateurs de Dieu, ni plus ni moins. Si vous coopérez à l'œuvre de Dieu et vous voyez, j'ai l'impression de vous avoir donné des recettes de cuisine, des petites recettes toutes simples, des petites recettes bien, bien basses et matérielles. Mais c'est par là que nous allons coopérer vraiment au salut du monde. C'est par ces petites choses où votre cœur sera livré vraiment que vous allez coopérer à l'œuvre de Dieu, devenir l'image du Christ, le Christ lui-même, des ambassadeurs de la gloire de Dieu qui va se révéler parmi nous, qui, grâce à vous, grâce à ce jeûne, ces prières et ce partage, va réaliser l'œuvre que Dieu a prévue de faire par vos mains. Il va faire advenir le royaume de Dieu. Amen.